Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 32e, notre première partie. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Alors vous êtes en marche, depuis un certain temps d'ailleurs. On va revenir tout à l'heure sur le fait que vous avez maintenant l'investiture et que vous êtes véritablement en campagne sur la deuxième circonscription de l'Aude pour... Alors comment on dit, macronien ou macroniste aujourd'hui ?
On dit surtout marcheur et on dit aussi personne, et nous sommes nombreux qui ont envie de faire changer la France et ce territoire.
Voilà. Alors on va revenir dans une troisième partie sur votre interview exclusive, Alain Perea. Pour le moment, notre sommaire prévoit pour ce Radio Barque 32 le financement des partis. Alors c'est compliqué. Oui. Ça explique la profusion des candidats, probablement. Mais Michel, tu le signales, c'est complexe et oui. En plus c'est à géométrie variable d'une année à l'autre, oui. Si j'ai bien oui. compris. Bon. Dans une deuxième partie, on parlera de ce que tu appelles, Michel, l'effet Macron sur les partis traditionnels, avec un regard sur les grandes métropoles de notre région, Montpellier, Perpignan, peut-être Toulouse, non ?
Toulouse. Pourquoi pas ? Je dirais deux mots sur l'attitude en fait, et le vote d'un ancien candidat en fait, à la présidence de la République du Parti Socialiste, M. Lamont, qui a une position un peu curieuse, j'en dirais deux mots.
Oui, oh, il ne doit pas être le seul.
Non.
Mais bon, Toulouse, ça nous intéresse, alors pourquoi pas. Et nous terminerons sur la lettre de Didier Mouly, maire de Narbonne, au candidat. Donc, entre autres, Alain Perea, une lettre qu'il a dû recevoir également.
Comme les 17 autres candidats, en fait.
Sauf Michel Py, puisque je l'ai reçu à mairie de Villedaigne au nom de M. Py, et je l'ai renvoyé à la bonne adresse.
Ah bon, ça c'est intéressant.
Lapsus, peut-être.
Probablement.
Ça arrive.
À moins que M. Py ait des visées sur Villedaigne, mais enfin, je pense pas. Il doit se sentir bien à le cadre, je pense pas que ça soit le cas. Bien. Oui. Alors, commençons. Michel, par le financement. Alors pourquoi y a-t-il tant de candidats dont certains, on le sait, et ils le savent, n'ont pas le moindre début de commencement d'une chance d'être élus, et pourtant, ils sont là. Qu'est-ce qui les motive ?
Mais pour une raison simple, Jean-Claude, c'est que le financement de tous les partis, quels qu'ils soient plus ou moins gros ou plus ou moins petits, est largement dépendant des financements publics. Ces financements publics sont accordés selon deux critères. Une première fraction de financement qui est assise sur le nombre de candidats qui ont obtenu au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions du pays. Et un deuxième critère qui est fonction du nombre de députés et de sénateurs. À qui élu par les partis en question.
Ça veut dire qu'il y a une enveloppe à se partager.
C'est premier élément. Deuxième élément, ce financement public est fonction d'une enveloppe qui figure dans la loi des finances chaque année, qui fixe un plafond de financement public. Exemple, en 2012, par exemple, les députés et sénateurs, puisque bon, il y a une navette entre les deux, ont voté, en fait, dans la loi de finances, une enveloppe de 71 millions d'euros. D'accord ? 60 millions. Et en 2016, donc, pour l'année qui s'est conclue, quoi, hein, par le quinquennat de M. Hollande, d'une certaine manière, 2012, 63 millions d'euros. Alors, une diminution, mais qui résulte d'une politique de économie budgétaire, mise en place par le président et son gouvernement, ex-président plutôt, et gouvernement de l'époque, qui consistait à diminuer effectivement le déficit public et les dépenses publiques. Donc, on a raboté 71-63. Donc, c'est en proportion du nombre de voix obtenues, en fait, par chacun des candidats, 1% dans au moins 50 circonscriptions, et deuxième fraction du nombre de députés et de sénateurs qu'aligne chacun de ces partis, que ces financements sont accordés. Alors, je vais donner un exemple, on va prendre 2016, la dernière année, pour illustrer le propos. En 2016, le Parti Socialiste, par exemple, qui était le parti archi-dominant,
en nombre, de députés,
puisque entre les députés et les sénateurs, le Parti Socialiste avait 398 élus. 398. Je ne fais pas la distinguo entre députés et sénateurs, ça va pas trop n'importe. 398 élus, donc, à ce titre, pour le nombre d'élus, le Parti Socialiste a obtenu 14 millions d'euros. D'accord ? En 2016. Mais, ça, c'est la deuxième fraction. Et pour la première fraction, en fait, c'est-à-dire le nombre de voix obtenues par le dit parti, hein, ils ont obtenu 10 millions d'euros. Donc 24 millions d'euros en 2016 pour le Parti Socialiste.
Oui, alors rappelons pour être très clair voilà, qu'il y a deux financements, un sur les élus, députés ou sénateurs, et un par chaque voix prononcée dans le scrutin.
Donc au total, 24 millions d'euros pour le Parti Socialiste et puis à peu près 19 millions d'euros pour le Parti Républicain. Ce sont à eux deux, bon, ils prennent pratiquement plus de 40% en fait des financements publics en question. Pour avoir un ordre d'idée quand même, sur le quinquennat, hein, sur 5 ans, donc, les élus de la République ont voté une enveloppe de 335 millions d'euros pour financer l'ensemble des partis politiques qui ont répondu à ces deux critères que je viens d'exposer. Alors, les socialistes et les républicains, j'insiste, se partageant presque la moitié effectivement de cette somme.
D'accord. Et alors, cette profusion de petits candidats, ils comptent émarger quelque part ?
Mais bien sûr, ils comptent émarger surtout hein, au nombre de voix obtenues. Parce que la probabilité qu'ils aient un nombre de députés, de sénateurs élus, hein, tangente pas, est de l'ordre de zéro. Enfin, c'est pas Lutte ouvrière qui peut espérer avoir un député dans la deuxième circonscription de l'Aude, par exemple, hein, où elle a un candidat. Je parle de cette secte, j'allais dire, en fait, trociste, qui est Lutte ouvrière.
Je te laisse la responsabilité. Non,
personne ne la connaît. Je donne un exemple. La candidate sur la deuxième circo réside à Martigues, en Provence, par exemple, en Côte d'Azur. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour faire campagne dans l'espoir d'obtenir un député. Comme un nombre significatif d'au moins une centaine de ses collègues est envoyé partout, au moins dans 50 circo, pour ramasser un peu plus de 1% voix afin effectivement d'obtenir un financement de public.
Donc il n'y a pas un seul parti qui est spécialiste pour parachuter des gens comme ça.
Pareil pour Debout la France, et j'allais dire pareil presque pour le Parti radical de gauche, qui figure aussi, mais qui lui par contre a un très bon score en nombre non pas de voix, mais un nombre de députés et de sénateurs.
Parce qu'il a de bons accords, probablement.
Oui, parce que le Parti radical, tout simplement, est un parti qui, historiquement, fournit au Sénat, en proportion, effectivement, de son influence, le plus grand nombre de sénateurs. Donc, la conséquence étant, effectivement, qu'il y a un nombre de sénateurs largement surdimensionné par rapport à son impact réel, compte tenu du mode d'élection des sénateurs. Il a, effectivement, une enveloppe, à ce titre-là, qui est particulièrement importante. À l'inverse, le Front National, par exemple, qui fait de très bons scores en termes de nombre de voix, notamment aux législatives. Lui, un exemple, en 2016, c'est 5 millions d'euros pour le Front National. Par contre, il n'y a ni député ni sénateur. Boum, une bulle, quoi.
Oui, zéro, ce sont uniquement les voix exprimées dans les votes.
On trouve des situations de ce genre un peu curieuses, qui font que tous les partis, effectivement, sont aussi conditionnés et ne peuvent pas ne pas imaginer leur avenir en fonction, effectivement, des prévisions de leur score, pour envisager comment ils vont financer leur organisation. Prenons l'exemple, c'est pas que je veuille insister sur ce parti, mais il se trouve que c'était le parti dominant du dernier quinquennat, le Parti Socialiste. Prenons une hypothèse qui est largement en dessous des prévisions aujourd'hui des sondages. Imaginons que, ils divisent par deux, leur nombre de voix et leur nombre de parlementaires, notamment députés, puisque ils ont quand même une centaine au Sénat.
Oui, ce qui reste en place.
Oui, mais sauf que le Sénat arrive bientôt,
Les prochaines.
Donc, le parlementaire. On divise par deux. C'est-à-dire que le Parti Socialiste perd 65 millions d'euros sur les 5 ans qui viennent. Alors, et en partie, forcément, ça vit effectivement de ses finances publiques.
Oui.
Donc, il faut que nos auditeurs imaginent les conséquences les conséquences dans l'organisation matérielle de ce parti, c'est-à-dire le nombre de salariés, sa communication,
son siège social prestigieux. Continuera-t-on à dire Solferino pour parler du PS ? Ça, c'est une question.
Tout ça pour dire qu'au-delà des aspects purement politiques et les convictions que chacun des partis et ses représentants affichent dans cette campagne, il y a aussi un aspect financier conséquent, qui détermine grandement aussi à la fois le nombre de participants aux législatives en question, mais aussi, la motivation des grands partis dits de gouvernement comme le Parti Socialiste et comme le Parti Radical. Et il se trouve qu'on est dans une conjoncture, tout le monde le sait maintenant, tout à fait originale, puisque avec l'arrivée et l'élection de Macron à la présidence de la République et la probabilité qu'il ait sinon une majorité absolue, en tout cas très proche de majorité absolue, cette conséquence-là provoque non seulement une mutation politique et idéologique, mais une mutation, pour ne pas dire une révolution financière, dans l'offre de chacun des partis dits du gouvernement qui antérieurement captaient l'essentiel des financements publics. Donc le genre de réalité
que les
auditeurs,
mieux,
me semble-t-il, devraient maintenant connaître et qui peut expliquer à la fois la profusion des candidats dans chacune des circos et en même temps les enjeux électoraux mais aussi financiers de chacun des grands partis dits du gouvernement.
Et rappelons donc, avant de marquer une pause, que pour ces petits candidats qui ont très peu de chance, il faut, sur 50 circonscriptions au niveau 1%. National, faire 1%.
Ce qui rapporte en gros 1,60 €, je fais le calcul, par mois.
Donc même s'ils n'ont pas d'élu, ils savent que dans leur caisse, il va rentrer...
€1 par électeur.
Des finances publiques. Voilà. Et bien cette fois-ci, on marque la pause et ça vous laisse réfléchir un petit peu à tous ces avantages financiers. Et peut-être sûrement, ceci explique cela.
Oh, je ne sais pas si ceci explique cela, mais les partis sont aussi des entreprises, d'une certaine manière. Et leur source de financement est une rente qui est une rente publique.
Voilà pourquoi on peut aller jusqu'à 24, voire plus, candidats sur une seule circonscription. Et on se retrouve pour une deuxième partie.